Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Transistor pour le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 26 octobre qui inaugure la quatrième saison de votre émission d'actualité sur Transistor. Une quatrième saison où vous pourrez retrouver bien sûr quelques voix familières mais où vous ferez aussi la connaissance de quelques recrues venues nous prêter main forte et à qui je souhaite également la bienvenue. Au programme de ce 26e numéro donc, à 20h15, la revue de presse de Marie, puis l'édito écho de Robin. À 20h30, après une dernière petite actu, on passera à la culture avec Léa et Sarah, puis avec Alice pour les sciences, qui sera lue aujourd'hui par Mathias, avant de retrouver Onde Courte en fin d'émission. Mais trêve de blabla, c'est parti pour une heure d'actualité politique et culturelle, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Et on commence tout de suite avec le journal, présenté par Maë et François-René. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Rémi.
Alors, le journal national, tout d'abord. Emmanuel Macron a choisi cette semaine Christopher Castaner, actuel porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, comme son successeur à la tête de la République En Marche. Il écarte ainsi Benjamin Grippeau, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, également prétendant au poste. Christopher Castaner, aux côtés de Macron depuis les débuts de la campagne présidentielle, fait a priori consensus au sein des membres de La République En Marche. Le député des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé sa candidature, qui devrait être validée par un vote du Conseil national de La République En Marche le 18 novembre, malgré son attachement apparent à son poste actuel. Il s'était en effet imposé comme un rouage important du dispositif présidentiel et sa future nomination devait entraîner un remaniement de circonstances au sein du gouvernement. Disposant d'une image plus à gauche et populaire que Benjamin Grippeau, Castaner est un véritable atout pour Emmanuel Macron, qui se voit reproché dans l'opinion politique, trop à droite et au service des privilégiés. Sur la question du glyphosate à présent, alors que le sort du désherbant devait être débattu ce mercredi en Europe, la décision reste en suspens faute de consensus. Classé comme cancérigène probable en 2015 par le Centre international de la recherche sur le cancer, le désherbant avait fait l'objet de vifs débats. Une majorité de députés européens avaient demandé son interdiction progressive et définitive. Alors que la licence du glyphosate expire le 15 décembre, il s'agissait donc mercredi pour la Commission européenne de décider de sa réautorisation pour une durée de 10, 7, 5 ou 3 ans. 16 pays se sont prononcés pour une réautorisation de 10 ans, quand l'Autriche, la Belgique, la Croatie, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Slovénie, la Suède se sont prononcés contre, le Portugal et l'Allemagne s'étant abstenus. Les attentes de la société civile, entendues par le biais de l'initiative citoyenne européenne signée par près de 1,3 million d'Européens, avaient réussi à contrebalancer au cours du débat les attentes des industriels commercialisant l'herbicide. La prochaine réunion devrait avoir lieu rapidement pour enfin décider du sort du glyphosate. C'était il y a un an, la jungle de Calais avait été évacuée, des centaines de migrants déplacés vers des centres d'accueil et d'orientation en région. Si 43% de ceux qui ont demandé l'asile l'ont obtenu, 46% attendent encore une réponse définitive. La préfecture parle certes d'une diminution de la pression migratoire à Calais et loue la réussite de mesures mises en place pour y répondre, mais les associations qui viennent en aide dénoncent quant à elles une situation qui s'est dégradée pour ceux qui restent. Regroupés dans la zone portuaire entourée de barbelés, les demandeurs d'asile affirment être régulièrement délogés brutalement par les forces de l'ordre de la lande, des bois, des ponts ou des conduits d'égout où ils tentent de trouver refuge. L'association Médecins du Monde dénonce également des conditions sanitaires alarmantes et regrette l'impossibilité de procéder à un suivi médical suffisant du fait d'une pression policière accentuée. Mercredi, le gouvernement a présenté son plan pour la mise en œuvre du CETA. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada avait en effet pu soulever de nombreux débats. Ce plan vise d'abord à répondre aux inquiétudes qui avaient été exprimées par le ministre d'une transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, ainsi que par de nombreuses ONG, sur le fait que le traité n'était pas compatible avec l'accord de Paris sur le climat signé lors de la COP21. D'autre part, il permet de rassurer l'Union européenne sur la prochaine ratification de la France du CETA, ce pourquoi Macron s'était prononcé pour lors de sa campagne présidentielle. Ce plan présente entre autres un certain nombre de garde-fous au CETA, passant par l'encadrement très rigoureux des volumes d'importation de produits. Il vise également à faire entrer dans la discussion avec le Canada les questions environnementales comme la question de la tarification du carbone. À l'international maintenant, la Russie a fait valoir une nouvelle fois son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU mardi 24, tuant dans l'œuf la volonté de prolonger la mission chargée d'enquêter sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Il s'agissait de mettre au clair une offensive au gaz sarin qui avait fait 83 morts, dont une trentaine d'enfants. Alors que le rapport de la JIM, mécanisme d'enquête conjoint de l'ONU, devait être présenté ce jeudi, la Russie avait annoncé d'ores et déjà qu'elle s'opposerait à un renouvellement du mandat d'enquête dans le cas où le rapport signerait la culpabilité de son allié syrien. Le vote avait ainsi été avancé. En utilisant son droit de veto, la Russie marque une nouvelle fois ses liens avec le régime de Bachar al-Assad et entrave la possibilité de prouver et de dénoncer l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien.
Et maintenant, place à l'international, avec d'abord une grosse affaire, l'affaire Weinstein, un sujet dont on parle depuis un peu plus de 20 jours maintenant, ou ce qu'on pourrait appeler le scandale Weinstein, pour lequel chaque jour qui passe apporte de nouvelles pièces, de nouvelles preuves accablantes.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits ?
Mais certainement. Alors, qui est d'abord Harvey Weinstein ? C'est tout simplement, avec son frère Bob, le plus puissant producteur de films d'Hollywood. Il est d'abord le fondateur de Miramax en 1979, avant que la boîte soit rachetée en 2003 par Walt Disney, ce qui provoque le départ des deux frères qui s'en vont fonder, en 2005, une deuxième boîte de production, la Weinstein Company. Celle-ci trouve un accord avec la plus grande société de distribution de films, la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, qui s'engage à diffuser sur leurs écrans la plus grosse partie des films de la Weinstein Company. Pendant ces presque 40 ans de films, Harvey Weinstein s'est taillé une solide réputation de faiseur de roi à Hollywood, au point que l'actrice Meryl Streep avait pu le comparer à Dieu, tout simplement. C'est l'homme aux 80 Oscars et aux 300 nominations. Parmi les films marquants, on peut citer Pulp Fiction, Shakespeare in Love, Le Discours d'un Roi, Inglourious Basterds, Django Unchained ou encore Happiness Therapy.
Alors si je me souviens bien, il était également passé maître dans l'art de mener une campagne.
Eh oui, prenons un exemple, il avait chapeauté la promotion de The Artist auprès du public américain, en disant à Michel Hazanavicius, à Jean Dujardin et à Bérénice Bejo à quel gala se rendre, à quelles émissions de télé aller, quoi dire dans leur discours, etc. Et faire oublier au passage que c'est d'abord un film français. Et ça avait porté ses fruits. Son pouvoir était encore renforcé par l'environnement juridique aux États-Unis, qui fait que les films, en tant que produits finis, appartiennent totalement à ses producteurs. Il dispose donc d'un droit total sur le film, y compris sur le montage, qui sera exploité en salle, quitte à modifier celui-ci, en vue d'optimiser la rentabilité du film. Et de ce point de vue, les Weinstein avaient la réputation d'être des producteurs sans état d'âme, n'hésitant pas à trancher dans le vif. Enfin, les Weinstein sont engagés politiquement. Ce sont des fidèles soutiens des démocrates, notamment Barack Obama, puis Hillary Clinton. Mais le 5 octobre, tout cela s'effondre. Deux enquêtes du New York Times, puis du New Yorker, accablent Weinstein, qui voit se profiler un certain nombre de témoignages contre lui de victimes qu'il accuse de viol ou d'agression sexuelle. Le 8, Weinstein est licencié de la Weinstein Company. C'est ensuite l'Académie des Oscars qui l'exclut de son sein. Depuis, la liste des victimes s'est allongée, donnant une idée de l'ampleur hallucinante du scandale. Alors qu'il est, et sous réserve d'autres témoignages, 6 femmes accusent Weinstein de viol, dont Arzia Argento, la fille du réalisateur italien Dario Argento. Une 7e s'est ajoutée hier, l'actrice norvégienne Nastasia Malte. Et des dizaines d'autres femmes l'accusent d'agression sexuelle. Le New York Times recense à ce jour 54 victimes, NBC News en dénombre 59. Pour ne citer que les plus célèbres, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godrech, Emma DeCaune, Cara Delevingne, Ashley Judd ou Léa Seydoux.
Et quels sont les scandales post-Weinstein ?
Oui, parce qu'on peut les appeler comme ça, et ils se multiplient tels une bombe à fragmentation. L'une des victimes, Dominique Houette, a également porté plainte mardi contre la Weinstein Company, accusant ses responsables d'avoir permis les abus en n'agissant pas, alors qu'ils avaient été informés de plusieurs cas. Bob Weinstein, quant à lui, le frère, est à son tour accusé de harcèlement sexuel par une scénariste hollywoodienne. D'autres réalisateurs, comme James Toback, ont été accusés de harcèlement. On lui devait notamment le film qui avait inspiré à Jacques Audiard « De battre mon cœur s'est arrêté ». Enfin, la libération de la parole dépasse le milieu du cinéma. Prenons l'exemple de l'ancien président George Bush père, accusé d'agression sexuelle par une actrice. Bref, on n'est sans doute pas au bout de ce grand déballage. Parlons un peu de la médiatisation de l'affaire. En fait, chaque camp médiatique trouve dans cette affaire de quoi mettre de l'eau à son moulin. Les médias de gauche se félicitent de la libération de la parole, mais côté conservateur, c'est plus pervers. L'occasion était trop belle d'accuser Hollywood, bastion pro-démocrate, d'hypocrisie. La très conservatrice chaîne Fox News, sur son site internet, fustige ainsi, je cite, « l'industrie des médias qui n'hésite pas une seconde, quand il s'agit durant les talk-shows du soir, de faire la leçon aux Américains sur les questions de santé ou de contrôle des armes à feu, et qui a bien du mal à trouver les mots pour critiquer l'un des siens ». Et Harvey Weinstein dans tout ça ? Eh bien, il s'est exilé en Arizona, où il a intégré un centre de désintoxication que la presse américaine décrit comme un spa pour traiter l'addiction sexuelle. Peu d'informations, sinon celles plus ou moins fiables des tabloïdes, ces mêmes tabloïdes sur lesquels Weinstein s'appuyait dans ses années de gloire pour détruire la réputation de ceux qui voulaient lui nuire. Tina Brown, qui a travaillé avec Weinstein, raconte au New York Times que tout au long de sa carrière, le producteur avait l'habitude d'être proche de ces tabloïdes. Je cite, de très nombreux journaleux qui bossaient dans la presse, Arago ou de divertissement, étaient presque des employés de Miramax. Bref, tout ça est assez glauque. Catalogne maintenant, avec un dernier rebondissement de la crise, avec le discours solennel cet après-midi de Carles Puigdemont, pour dire qu'il refusait, pour l'instant, de déterminer quelle sera la réponse des autorités catalanes à la probable mise sous tutelle de la région autonome. Il laisse en fait ses responsabilités au Parlement catalan.
Et donc il a dit qu'il n'allait rien dire en fait pour le moment.
Voilà, exactement. Il a parlé pour ne rien dire, enfin même si c'est méchant de le présenter comme ça. Alors je vous rappelle les enjeux. La Catalogne a présenté un référendum intitulé ainsi « Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous forme de République ?» 83% des inscrits avaient participé au vote, le oui l'emportant à 90,18% des suffrages exprimés. Ensuite, réaction face à la réaction de Madrid, il proclame la Catalogne indépendante, Puigdemont, tout en suspendant la prise d'effet de celle-ci, afin de négocier avec Mariano Rajoy. Cependant, ce dernier annonce deux semaines plus tard la mise en application de l'article 155 de la Constitution, décision que le Sénat doit confirmer. Moralité, la crise catalane, malgré les enjeux réels, ressemble pour le moment à une comédie compliquée. Égypte maintenant, où Emmanuel Macron recevait lundi en fait le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. C'était la première rencontre entre les deux hommes. Il s'agissait principalement d'évoquer la question du djihadisme. Comme nombre de pays arabes, l'Égypte aussi entre pouvoir militaire, incarné par al-Sissi, et fondamentaliste, en l'occurrence les frères musulmans. Et les ennemis de mes ennemis étant mes amis, l'Égypte et la France s'allient pour lutter contre l'islamisme, en particulier chez le voisin libyen. Macron s'est ainsi fendu de la déclaration suivante. De la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant ne me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je crois à la souveraineté des États, qui appelle à ne pas donner des leçons hors de tout contexte. Il réagissait ainsi aux déclarations de plusieurs ONG, notamment Human Rights Watch, qui dénonce la répression politique à grande échelle depuis l'accession d'Al-Sissi au pouvoir. On dénombre à ce jour 60 000 prisonniers politiques, et la répression vise aussi les libéraux, la gauche et les homosexuels.
Alors la Chine maintenant, le 19e congrès du Parti communiste se tenait jusqu'à hier, 25 octobre.
Et oui, une occasion pour le secrétaire général du parti Xi Jinping d'asseoir un peu plus un pouvoir personnel. Et ceci en deux temps. Il a d'abord fait inscrire son nom dans la charte du parti, ce qui le place au même rang que le fondateur de la Chine communiste Mao, et au même rang aussi que celui qui, dans les années 80, a fait prendre au pays un tournant libéral, en tout cas du point de vue économique, j'ai nommé Deng Xiaoping. Deuxième étape, hier, il a rompu avec les usages en ne nommant aucun successeur possible au sein du comité permanent du bureau politique, c'est-à-dire le cœur du pouvoir, quand il a dévoilé ce comité permanent à la presse. Xi Jinping est donc reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Certains y voient le retour d'une conception impériale du pouvoir.
Merci beaucoup Maë et François-René pour ce journal plein de nouvelles pas toutes réjouissantes, mais il faut bien en passer par là et sans plus tarder, on va passer à la revue de presse donc avec Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir Rémi.